Voici le troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1986. Avec la navette Challenger, qui explose en plein vol, la catastrophe de Tchernobyl, l'irruption d'un beau gosse dans les cinémas, Christophe Lambert et Adjani, au cœur d'une folle rumeur.
1986, Ondelatte raconte sur Europe 1.
En janvier 1986, la NASA s'apprête à lancer sa 10e navette spatiale Challenger, avec à bord 6 astronautes. Il s'agit d'aller faire exploser la comète de Halley, qui passe dangereusement près de la Terre. Mais le départ est retardé plusieurs fois. Les conditions météo ne sont pas bonnes. Il fait trop froid. Et puis, le 28 janvier 1986, après 8 reports, malgré la température glaciale, la NASA donne son feu vert pour le décollage. Les chaînes de télévision américaines retransmettent le décollage de Challenger en direct. Mais après 73 secondes, alors que la navette évolue à 3200 km/h, Challenger se transforme en une énorme boule de feu et retombe impuissante dans l'océan. À 17h40, Europe 1 stoppe ses programmes pour raconter en direct. Mais raconter quoi ? En 1986, à Europe 1, on ne reçoit pas les chaînes américaines. Et on n'est pas non plus abonné à Canal+, qui reprend les images américaines. Et c'est donc Charles Bietri, le patron des sports de Canal+, qui commente en direct sur notre chaîne l'explosion de la navette spatiale.
Soudain, elle a semblé prendre une trajectoire un peu plus horizontale que prévu. Les flammes se sont fait un peu plus grandes, la fumée un peu plus noire, et puis elle a soudainement explosé. C'est une image que vous verrez sur vos écrans de télévision très bientôt, certainement. Une explosion, mais fantastique, comme si c'était un volcan qui, d'un seul coup, débouchait sur l'écran.
Elle s'est produite combien de temps après le lancement ? On dit 45 secondes, on la voyait donc encore assez nettement, cette navette.
Un peu moins, peut-être, 25-30 secondes. Les images étaient tellement belles qu'on était pris par l'image et par la beauté du spectacle. Et donc, d'un seul coup, elle a explosé. Ça a fait comme une... Ensuite, là, ça s'est figé dans le ciel, comme un espèce de scorpion dessiné sur le ciel, sur la chaîne CNN, donc, que nous recevons en direct à Canal+. On voit les images de la station, on a déjà vu deux fois au ralenti les images de l'explosion.
Quelques minutes plus tard, les images sont diffusées à la télévision française dans le mini-journal de Patrice Drevet, court rendez-vous d'information de TF1 à 18h. Notre spécialiste scientifique, l'excellent Albert Ducrot, les découvre à cette occasion.
Tout se passe comme si le réservoir d'hydrogène avait explosé. Vous savez que la navette a d'une part des moteurs à poudre et un énorme réservoir d'hydrogène et d'oxygène. Et hydrogène-oxygène, c'est le combustible le plus puissant qu'on puisse imaginer. Quand vous avez un mauvais débit, eh bien vous pouvez avoir à ce moment-là effectivement l'explosion. Il semble malheureusement que ceci... Alors j'ai vu comme vous ces images, c'est atroce. C'est atroce parce qu'évidemment, on a eu l'impression d'une bombe atomique qui a soufflé la navette et nous avons vu la pauvre navette, n'est-ce pas, en train de...
Pulvériser.
À brûler.
Pulvériser, désintégrer au moment de l'explosion. Mmh. Alors c'est vrai qu'elle a changé de trajectoire.
Oh, mais vous rendez compte, la percussion, n'est-ce pas, c'est effrayant tout d'un coup, n'est-ce pas, cette impulsion qui lui a été communiquée en même temps qu'elle était désintégrée et qu'elle brûlait, n'est-ce pas, c'était absolument effrayant.
Des secours maritimes se portent sur le point de chute de Challenger, avec peu d'espoir de retrouver âme qui vive.
Les Américains, effectivement, connaissent très bien la trajectoire, il y a eu une percussion, par conséquent, on sait quel air il convient d'explorer. Mais vous savez, il faudrait un miracle pour que dans ces conditions, il y ait des survivants. Parce que je vous le dis, n'est-ce pas, il n'y avait pas de siège éjectable, il n'y avait aucune mesure qui avait... Au contraire, la consigne, c'était de rester dans la cabine. Car la cabine, on croyait que c'était vraiment ce qui assurait la protection maximale. Pour qu'il y ait des survivants, vraiment, il faudrait un miracle. Mais, eh bien, ce miracle, on doit, jusqu'à plus ample informé, espérer qu'il aurait pu se produire. Et pour cette raison, eh bien, les recherches vont être certainement poussées de façon intensive, indépendamment du désir technique de savoir ce qui s'est passé.
Aucun miracle. Les 7 membres de l'équipage ont péri dans la tragédie. 6 astronautes et une enseignante, Christa McAuliffe, qui avait été choisie parmi des milliers de postulants pour devenir la première citoyenne de l'espace. Elle était la seule non-professionnelle à bord, et les jours précédant le décollage, les Américains s'étaient attachés à elle.
Oui, les
Américains ont pratiquement, si vous voulez, vécu avec elle tous ces derniers jours, toutes ces séances d'entraînement, toutes les faux départs, enfin, tout était vécu avec elle. Et il y avait un certain nombre d'enfants qu'on avait transportés pour ce départ à Cap Canaveral. Tous les enfants américains, disons, suivaient l'exploit de cette institutrice. Et tous les enfants américains ont pratiquement assisté à sa mort. C'est donc une émotion considérable aux États-Unis, en grande partie à cause d'elle.
Complètement par hasard, les passagers du vol New York-Miami se sont retrouvés aux premières loges au moment de l'explosion, comme le raconte un passager.
Le commandant de bord nous a dit, écoutez, bonne nouvelle, à cause de notre retard, nous allons passer dans quelques secondes à la verticale du Cap Kennedy, Cap Canaveral, où à l'instant même décolle la navette spatiale. À ce moment-là, on a vu la navette passer au-dessus d'une petite bande de nuages, tout le monde a applaudi. Et puis tout d'un coup, il y a eu une énorme flamme orange et un énorme nuage blanc. On n'a pas très bien compris ce qui se passait. Et à ce moment-là, le commandant a dit, écoutez, c'est une tragédie nationale. La navette vient d'exploser avec tout l'équipage, dont deux femmes. C'est une tragédie. À ce moment-là, il y a eu un instant de panique dans l'avion, c'est-à-dire que tous les passagers ont voulu se ruer vers les hublots du côté gauche. Et puis on a demandé à tout le monde de s'asseoir et... Il y a des gens qui commencent à pleurer dans l'avion. Enfin, ils ont ressenti ça vraiment comme une tragédie. Et à ce moment-là, on est vraiment passé à la verticale du cap. On a vu un énorme nuage blanc. De ce nuage redescendait dans l'océan des traînées blanches.
Le lendemain du drame, Albert Ducrot, le spécialiste scientifique maison, s'interroge sur les causes de l'accident.
Il est vrai que les 8 ajournements de la dernière mission avaient fait mauvais effet et que ces retards successifs donnaient un peu l'impression, eh bien, de vouloir des opérations faites à tout prix. La NASA s'en défend, il demeure que quand même, il y avait un climat relativement lourd ces derniers jours à Cap Canaveral.
Alors je vous pose la question à propos des militaires, parce qu'on sait que Challenger, pendant cette mission, devait mettre en orbite un satellite militaire ultra sophistiqué. Alors hier soir, vous nous disiez cela, alors moi je vous pose la question, à vous le spécialiste, est-ce qu'on peut écarter l'hypothèse d'un sabotage ?
Écoutez, vous savez, une navette... Ça n'est pas facile à approcher aux États-Unis. Mais je me dis que, à événement exceptionnel, il faut une explication exceptionnelle.
Après enquête, la NASA établira que les températures négatives ont perturbé les moteurs et les propulseurs de la navette. C'est la première fois que la NASA vit un tel drame. C'était Gold, le groupe français avec son tube de 1986, Capitaine abandonné, qui est une chanson hommage à deux aventuriers disparus, Arnaud de Ronet en 1984 dans le Pacifique et Philippe de Dieuleveux, le journaliste présentateur de la chasse au trésor en 1985 sur le fleuve Congo.
1986, Ondelat raconte sur Europe 1.
Le 28 avril 1986, à Tchernobyl, en Ukraine, Une centrale nucléaire est en feu. L'incendie est tel que le régime soviétique ne peut pas garder cette explosion secrète. Dès le lendemain, l'agence France-Presse à Moscou diffuse les premières informations.
Atomique de Tchernobyl. Aucune raison de s'inquiéter. Ce message réconfortant était le titre d'un article de la presse soviétique paru en 1979. Il vantait les mesures de sécurité prises à cette centrale au point d'en décrire des nids de cigognes au-dessus du réacteur. L'accident, que l'on devine très grave au travers des informations aussi incomplètes que laconiques disponibles à Moscou, ne pouvait être tu, comme c'est la règle. L'élévation de la radioactivité dans les pays voisins de l'Union soviétique allait être détectée. Le Conseil des ministres de l'URSS a donc pris les devants hier soir. D'autant que les rumeurs, dont la propagation est rapide ici, n'auraient pas manqué d'alarmer une population soumise à une propagande permanente sur les dangers de l'énergie atomique. L'agence TASS s'applique à noter que ce genre d'accident est fréquent à l'étranger. Le problème est que l'on ne sait vraiment pas de quel genre d'accident il s'agit. Pierre Lesourd, Moscou, AFP Audio pour Europe numéro 1.
C'est Mikhaïl Gorbatchev qui est à ce moment-là président du Soviet suprême. Il a décidé de communiquer sur l'accident via l'agence de presse soviétique TASS.
On peut noter que l'agence TASS a été exceptionnellement rapide pour donner la nouvelle.
Effectivement, et cela confirme la politique de franchise inaugurée en matière de presse par Mikhaïl Gorbatchev. Gorbatchev est d'avis que les bonnes nouvelles ne sont crédibles que si les mauvaises nouvelles sont également publiées. Et hier, non seulement il y a eu ce communiqué de TASS, mais le communiqué de TASS a été lu à la télévision.
Comment réagissent les Ukrainiens? Ont-ils conscience du danger encouru? La rédaction d'Europe 1 parvient à joindre une Française qui vient de quitter l'Ukraine.
Il n'y a pas eu de reportage à la télévision, hein? Il y a que deux morts officiellement, hein? Alors, bon, eux, ils savent qu'il y en a plus, ça c'est sûr. Ils sont inquiets, mais bon, ça ne les empêche pas de vivre. Disons que ça fait un sujet de conversation pour l'instant. Quand on est parti, c'était à ce niveau-là. Mais les gens, on ne voyait pas des gens paniqués. Moi, j'ai encore vu des amis soviétiques à la gare hier soir. Je veux dire, ils sont venus me dire au revoir tout simplement. Ils ne m'ont même pas parlé de ça, d'ailleurs. Ils sont venus et c'est tout. Ils ne sont pas du tout paniqués. On a laissé beaucoup d'amis là-bas. Bon, pour l'instant, les informations sont tellement minimes que personne ne s'inquiète.
Selon cette Française, les Ukrainiens n'ont donc pas vraiment conscience de l'ampleur de la catastrophe.
Ils préparaient le 1er mai, bon, il y avait les drapeaux rouges, les chars qui passaient dans les rues, mais je veux dire, tout à fait normal. Hein. Les gens allaient au travail, je me suis promené lundi soir sous Kréchiatique, il ne se passait rien de spécial. Hein.
Quelle impression l'opinion publique soviétique a des informations qu'elle reçoit par la télévision? Est-ce qu'elle les considère comme suffisantes ou au contraire, ça l'inquiète?
Je pense que les gens sont conscients du fait que les informations sont en général erronées, sont vraiment minimum. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des bruits qui s'amplifient assez facilement, parce qu'ils cherchent à avoir l'information par les gens de la rue. Bon, alors en général, c'est par le système des taxis. Le taxi demande à tous les gens qui veulent monter s'il n'a pas des nouvelles un peu plus fraîches, et le système est comme ça.
Un Ukrainien, lui, témoigne d'une réalité beaucoup moins idyllique.
The Russian have told that there were many, many...
Les Russes ont dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes morts par radiation. J'ai entendu que deux réacteurs nucléaires avaient fondu et que un réacteur était encore en feu. Aux alentours de la catastrophe, les gens manquent d'eau potable et de nourriture et des milliers de personnes ont dû être évacués vers le sud du pays, vers des régions plus sûres. Il y aurait plusieurs centaines de morts et peut-être beaucoup plus. Et j'ai entendu cet après-midi que des satellites espions américains avaient constaté que le réacteur était toujours en feu.
Cet homme a raison. Les Américains soupçonnent les Soviétiques de ne pas dévoiler toutes les coulisses de cette catastrophe. Alors ils ont branché leurs satellites. Et le correspondant américain d'Europe 1 a des billes sur le résultat.
Depuis samedi, un satellite espion américain KH-11 transmet des images. Le toit du réacteur a été soufflé. Des pans entiers des murs entourant le réacteur se sont écroulés. un nuage noir s'élève dans le ciel. Il y a 2 heures, le noyau radioactif brûlait toujours. Un réacteur voisin est menacé. Le taux de radioactivité est 1 million de fois plus élevé qu'au pire moment de l'accident survenu il y a 7 ans aux États-Unis dans la centrale de Three Mile Island. Dans la zone de 30 km autour du site qui a été évacué, le danger est mortel. Un cours d'eau qui va jusqu'à Kiev, 2 millions d'habitants, est contaminé. Le nuage radioactif, après avoir été poussé par le vent vers Minsk et la Scandinavie, se dirige maintenant vers Moscou.
Malgré les démentis soviétiques, les Américains avancent un bilan. 2000 morts et 50 000 personnes de la région déplacées.
D'autres vont mourir dans les prochains jours. Les mêmes observations montrent que les Soviétiques sont manifestement dépassés par les événements. La centrale atomique dans laquelle a lieu la catastrophe est un immense complexe. Washington, Jean-Pierre Joulin, Europe 1.
2 jours après l'explosion de Tchernobyl, Gérard Carrérou reçoit sur Europe 1 Pierre Messmer, Premier ministre qui, il y a 12 ans, en 1974, a lancé la construction des centrales nucléaires en France. Est-ce que ce qui s'est produit en Ukraine peut arriver chez nous ?
Vous avez été un peu responsable de ce grand programme de centrales nucléaires,
oui.
et vous avez été moins péremptoire tout à l'heure que certains techniciens sur l'idée que ça ne pourrait pas arriver en France. Ça m'a frappé.
Ah, écoutez, je crois qu'il ne peut pas arriver en France un accident de cette dimension. Mais dire qu'il ne peut rien arriver, ça n'est pas sérieux. Il y a toujours, toute activité humaine comporte un certain risque. Alors, j'ajoute qu'en France, les mesures de sécurité sont les plus fortes, sont les plus sérieuses qui existent au monde dans ce domaine.
Les Français ne s'inquiètent pas seulement de savoir si une telle catastrophe pourrait survenir dans l'une de nos centrales. Leur préoccupation, là, tout de suite, est de savoir si un nuage radioactif peut arriver jusqu'à nous. Benoît Duquesne, reporter d'Europe 1, s'en inquiète auprès d'un membre de la commission de surveillance de la catastrophe de Tchernobyl.
Allô ?
Allô, oui ?
Oui, bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Benoît Duquesne d'Europe numéro 1.
Oui.
J'aurais voulu savoir où se trouvait le fameux nuage radioactif dont on a tant parlé.
Mais monsieur, il n'y a pas de nuage qui soit individualisé, n'est-ce pas ? Il y a eu, effectivement, dans un premier temps, des poussières en aérosol. Ces poussières tournent dans l'hémisphère nord.
Alors, faut-il s'attendre à des retombées radioactives, même si elles sont moins importantes que celles qu'on a connues juste après l'accident de Tchernobyl ?
On peut imaginer qu'il y aura un petit rebondissement, très très faible, mais qui vraiment ne pose aucun problème sanitaire, on l'a dit et répété. Il y a effectivement des épinards dans lesquels nous avons trouvé 2600 becquerels par kilo, mais ce ne sont pas des épinards qui ne sont pas consommables pour autant.
Alors que faut-il dire aux agriculteurs ? Doivent-ils faire contrôler la radioactivité de leurs légumes ? Et dans ce cas, par qui ?
On ne doit pas apporter de restrictions aux produits qui sont cultivés en France. Actuellement, ça serait absolument injustifié.
Ces propos ne rassurent pas. Et en France, on panique. D'autant que nos voisins européens prennent des mesures de prévention contre ce nuage radioactif. Benoît Duquesne interroge cette fois un médecin généraliste.
Alors on voit en Allemagne ou en Pologne des services sanitaires qui distribuent des pastilles d'iode aux enfants ou aux femmes enceintes. Est-ce que ce sont des mesures qui doivent être prises ?
Ces mesures sont absolument injustifiées à l'heure actuelle et tout à fait inopportunes. Par conséquent, elles ne seraient envisageables en cas d'accident nucléaire qu'au voisinage très proche de la source d'émission de la centrale accidentée par exemple.
Donc il n'y a aucun souci à se faire.
Il n'y a aucun souci à se faire, et il faut au contraire vraiment lutter contre cette panique injustifiée.
En Alsace, le nuage radioactif est passé au-dessus de la région. Et les habitants sont certains que leurs fruits et légumes sont déjà contaminés. Et ils n'ont pas non plus confiance dans le seuil d'alerte choisi par la France pour évaluer la dangerosité radioactive des produits.
Les Allemands ont fixé leur seuil de radioactivité à 500 becquerels par kilo de légumes. La France, elle s'inquiète à partir de 2000. Alors entre les deux, les Alsaciens frontaliers s'inquiètent et s'interrogent. La radio allemande, très écoutée ici, annonçait il y a quelques jours une augmentation très nette du nombre d'avortements pratiqués sur des femmes paniquées. Ici, la psychose se porte en revanche sur la consommation des légumes. Les ménagères sur les marchés boudent les épinards et les salades, et les maraîchers s'arrachent les cheveux. 80% de la production d'épinards a été détruite. Même les particuliers renoncent à manger les fruits et les légumes de leur jardin. Et ce qui inquiète le plus les ménagères, c'est qu'elles ont continué de cuisiner normalement à l'époque où le nuage est passé et pendant les 8 jours qui ont précédé les premières informations. Pourtant, ce matin, le service des fraudes annonçait une diminution de 50% de la radioactivité mesurée après des prélèvements faits tous les 2 jours depuis le 7 mai. On est passé maintenant de 2600 à 1300 becquerels. Colmar, Laurence Lacour, Europe 1.
Conséquence, sur un marché maraîcher de gros près de Strasbourg, on fait la gueule. Les clients ne veulent pas se risquer à acheter des fruits et des légumes locaux.
On ne vend plus rien.
Bah nous, ça nous fait une vente de 30% en moins sur tous les articles. Sur tous les articles. Hein. Il y a un beau malaise même. Nous, on vendait un wagon d'Italie de pommes de terre par jour. Maintenant, on n'en vend plus. On n'en a pas vendu 10 sacs aujourd'hui.
Hier, on s'est croisé les bras. Qu'est-ce qu'ils vous disent en général les détaillants quand ils viennent?
Eh ben, qu'ils sont bloqués parce que les gens leur font la réflexion. Est-ce qu'il y a de la rétroactivité dessus ou
sur
pas?
Sur les marchés, c'est ça.
Voilà.
Là, ce matin, j'ai jeté 40 cajots de salade, j'ai l'un vendu de la semaine dernière.
Les fameuses fraises?
Bah, les fameuses fraises, c'est pareil, on nous fait toujours la réflexion, mais on voit des gens qui les boudent.
En fin de compte, il n'y a aucun risque pour personne. Parce qu'en ce moment, on a un boycott sur l'asperge, alors que l'asperge, au moment que le nuage est passé, c'était en terre et ça ne met pas de risque.
Il va se passer une chose, tout ce qui ne se vend pas, ces fameux épinards dont on a parlé d'Alsace, vont certainement être mis en conserve et vont ressortir à la vente l'année prochaine.
Et vous noterez qu'en 2016, 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, l'Est de la France conservait des zones de radioactivité supérieures à la normale française. C'était Sting en 1986 avec Russian.
1986, Ondelat raconte sur Europe 1.
Au cinéma, l'année 1986 marque l'apogée d'un beau gosse franco-américain de 29 ans, Christophe Lambert. Depuis 3 ans, il enchaîne les succès publics et critiques. Et au début de l'année 86, il reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Subway de Luc Besson.
Bah, je suis content. Je suis très content. Je le partage avec les gens qui sont dans cette salle, avec les gens qui regardent la télé. Et je le dédie à quelqu'un que j'aime énormément, qui est mon frère. Voilà, merci.
En 1986, les posters de Christophe Lambert tapissent les chambres d'adolescentes.
Plus vraiment d'idole, et puis maintenant c'est la nouvelle, quoi. Je trouve qu'il est vraiment génial.
C'est le bel homme, je sais pas, il a plein de classe, puis il est cool, toi. Puis il a un regard sans sas, quoi, qui fait craquer.
On a fait cet acteur sur le regard, mais vraiment tout, je sais pas, son aspect entier, vraiment c'est super.
Tout, hein, les yeux, tout, les cheveux, les orteils, tout.
Il y a une force qui dégage. Il n'y a que lui sur l'écran, personne d'autre pourrait prendre sa place dans un film, je pense.
Je lui fais une grosse bise et tout, je félicite pour son film parce que je le trouve vraiment génial.
En mars 1986, Christophe Lambert s'affiche dans une nouvelle super production hollywoodienne, Highlander.
Bonjour, c'est Christophe Lambert qui vous parle. Je vous propose de voir Highlander avant tout le monde le lundi 24 mars à 20h au Grand Rex. Je serai là avec le groupe Queen et plusieurs de mes amis acteurs et chanteurs. À lundi.
Ah oui, oui, lundi donc au Grand Rex, là, il faut y aller, hein. C'est formidable. C'est le film de l'année, hein, avec Europe 1, mais c'est pas parce que c'est Europe 1, honnêtement.
Parce que c'est bien.
Mais il ne néglige pas pour autant le cinéma d'auteur, puisqu'à Cannes, il présente l'un des films les plus bizarres de la décennie, I Love You, réalisé par Marco Ferreri. Christophe Lambert incarne un cœur paumé et solitaire qui tombe amoureux du visage d'une femme en plastique sur un porte-clés. Ce film complètement barré emporte le succès de la critique et Christophe Lambert n'était pourtant pas emballé au départ.
J'ai lu le script et je l'ai refusé. C'est en rencontrant l'homme que je me suis dit je vais faire ce film. Parce que la façon dont il parle justement de son histoire, quelqu'un qui tombe amoureux de son porte-clés, c'est quand même pas convaincant. Bon, maintenant tout à coup on est en face d'un type qui vous explique son histoire, qui a 200 idées à la minute, qui a une imagination qui est hallucinante, et puis qui est surtout un metteur en scène qui n'a jamais essayé de copier quoi que ce soit. Tout ce qu'il fait a toujours été à lui. Bon, alors la façon dont il explique les choses tout à coup, et dont il parle du porte-clés, dont il parle de l'histoire, etc., on se dit, je fais le film. Bon, c'est un film qui pour moi est totalement différent. J'ai jamais fait ça.
Dans un tout autre style, en 1986, un autre beau gosse, Sean Connery, 56 ans, séduit un moine franciscain dans le film Au nom de la rose, thriller médiéval de Jean-Jacques Hano, adapté d'un roman d'Umberto Eco. C'est l'un des films les plus vus de l'année 1986 au cinéma, 4 955 000 entrées.
Cet endroit ne me plaît pas.
Ah bon ?
Je le trouve très stimulant, au contraire. Mon cher Atto, nous n'avons pas le droit de nous laisser influencer par toutes ces folles rumeurs d'antéchrist. Essayons plutôt de faire travailler nos ménages et tâchons de résoudre cette énigme passionnante.
Jean-Jacques Hano confie sur Europe 1 qu'au départ, il n'avait pas du tout envisagé Sean Connery dans le rôle du moine. Trop étiqueté James Bond.
J'ai d'abord été voir beaucoup d'acteurs de théâtre anglais relativement peu connus. Puis après, j'ai été voir des acteurs plus connus. Puis j'ai été voir des stars aux États-Unis. Puis un jour, je me suis dit quand même, j'ai peut-être tort de ne pas voir Sean Connery. Et enfin, Sean Connery vint. Et je dois dire que je m'en suis beaucoup voulu quand je l'ai vu apparaître. Il a une telle stature, un tel charisme, de l'humour, de la dignité, de l'autorité. Je suis tombé à la renverse et je m'en suis beaucoup voulu d'avoir été ce metteur en scène qui colle des étiquettes aux acteurs. Mea culpa, mea culpa, mea culpa.
Frère Guillaume, puis-je vous parler franchement ? Vous semblez très désireux de le faire. Quand je suis votre arrivée dans notre pays, j'ai vu là la réponse à mes prières. Voici un homme, suis-je dit, que l'expérience a rendu grand connaisseur de l'âme humaine et des trames obscures du malin. En vérité, la mort de frère Adèle m'a causé un profond malaise dans les esprits parmi mes moines.
Jean-Jacques Hano révèle aussi comment il dirige ses acteurs.
Michel Lonsdale serait venu vous trouver au début du tournage en vous disant comment je dois jouer le père abbé du monastère et vous lui auriez répondu, ben pensez à Mitterrand. Exact ?
Exact.
Et alors, vous pouvez nous en dire plus sur cette direction ?
Non, parce que la conversation s'est arrêtée là et nous avons mangé tranquillement. Vous savez, il y a des directions d'acteurs qui se suffisent d'un mot, d'une référence, d'une allusion. Après, il ne faut pas compliquer les choses. C'est à lui de sentir ce que j'ai voulu dire. Et d'ailleurs, il m'a dit très très bien, ne me dis rien d'autre.
Après Christophe Lambert et Sean Connery, le troisième beau gosse du cinéma de 1986... C'est Tom Cruise, à l'affiche de Top Gun.
Ce film raconte la vie de la patrouille d'élite de l'armée américaine, les As des As du manche à balai, triés sur le volet après des années d'entraînement et de sélection impitoyables. Au milieu de cette équipe de choc, arrive une tête brûlée, le meilleur de sa catégorie, mais qui court après le fantôme de son père, mort au combat pendant la guerre du Vietnam. Ses folies irritent ses camarades, mais il est le plus beau, le plus doué, et les femmes ne lui résistent pas. Voilà le résumé de ce Top Gun, filmé avec maestria par Tony Scott, et qui est le succès de l'été 86 aux États-Unis, loin devant tout le monde. Le message positif du film, son exaltation des valeurs patriotiques, son humour, ont fait mouche dans l'Amérique de Reagan, et Tom Cruise, le héros, a succédé à Stallone dans le cœur du public. En attendant, tout Deauville s'est laissé griser par les images enivrantes de Top Gun, que vous verrez dans quelques jours sur vos écrans.
Top Gun devient culte dès sa sortie. Tom Cruise est irrésistible avec ses lunettes Ray-Ban et son blouson aviateur. Et la bande-son du film est tout aussi emblématique. Voici le titre le plus connu. C'était le groupe Berlin qui signe l'un des titres de la bande originale du film Top Gun avec Take My Breath Away, l'un des gros tubes de la fin de l'année 1986.
1986, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1986, l'actrice française dont on entend le plus parler est Isabelle Adjani. L'héroïne de La Gifle et de L'été meurtrier n'est pourtant à l'affiche d'aucun film cette année-là. Mais elle est au centre d'une folle rumeur. Tu le savais, toi ? Bah quoi ? Adjani, elle a le sida. Elle est à l'hôpital à Marseille. En 1986, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vu entrer Adjani à l'hôpital. Alors parfois c'est à Marseille, ou à Toulouse, ou à Bordeaux, et même à Paris. Le 20 octobre 1986, une radio relaie l'hospitalisation d'Adjani. Deux jours plus tard, la star est au JT d'Antenne 2 pour présenter un disque. Et évidemment, avant de débuter la promo du disque, Claude Sérillon l'interroge sur sa santé. Comment ça va, Isabelle ?
Ça s'est produit avant-hier. Écoutez, c'est simple. Imaginez que vous vous trouvez dans votre voiture à 18h, que vous vous dirigez vers ici pour présenter le journal télévisé et vous entendez les informations de 18h où on annonce que vous êtes hospitalisé. Imaginez deux secondes l'effet que ça peut produire sur vos amis, sur votre famille et puis sur vous-même. Et c'est tout à fait terrible. Et ouais. C'est quand même très dommage qu'en ce moment, l'information se base un tout petit peu trop sur des rumeurs. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'information est une chose adulte, qui est faite par des gens professionnels, et que c'est très dommage quand des journalistes, tout d'un coup, discréditent leurs collègues en faisant ce que j'appelle une bavure, c'est-à-dire en ne faisant pas leur métier.
Isabelle Adjani n'a pas le sida et elle n'est pas à l'hôpital. Le lendemain matin, Yvan Levaille livre un billet d'humeur enflammé sur Europe 1.
C'est dire la responsabilité des informateurs face à la nouvelle non vérifiée, invérifiable et à la rumeur partie de très bas ou de très haut. C'est dire qu'on ne pouvait être que de tout cœur hier soir avec Isabelle Adjani. Quand elle a déclaré sur Antenne 2 qu'une radio avait menti sur sa santé et prétendu l'autre soir au journal de 18h, mais oui, qu'elle venait d'être hospitalisée. Et la belle Isabelle d'en appeler à tous les téléspectateurs adultes et à tous les journalistes adultes pour chercher ensemble l'information vraie et jeter l'autre au panier. Elle a bien fait.
Malgré le démenti d'Isabelle Adjani, la rumeur court toujours. Ah ben là, le sida, hein, c'est sûr. C'est pour ça qu'on ne la voyait plus à la télé depuis des mois. Et c'est pour ça qu'elle n'a rien tourné cette année. La rumeur va jusqu'à annoncer sa mort. Alors un mois après le JT d'Antenne 2, Isabelle Adjani est aux 20h de TF. Et elle est vivante.
Je suis surtout venue ici pour rassurer les gens, pour leur dire que je les aimais, puisqu'en fait, je n'ai répondu à aucune sommation ni à aucune convocation d'aucune sorte. Je ne répondrai jamais à aucun ordre, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit. C'est uniquement pour rassurer le public que je suis venue ce soir et pour leur dire, ne croyez pas tout ce qui se raconte, parce que tout ce qui se raconte n'est pas vrai. Voilà. Alors je vous dis bonsoir, je vous embrasse et je vous embrasse aussi.
Isabelle Adjani quitte le plateau au bord des larmes en faisant la bise au présentateur Bruno Mazur. Et le lendemain, rebelote, Yvan Levaille s'emporte une fois de plus contre les méfaits des rumeurs.
C'est la seconde fois en 3 mois qu'Isabelle Adjani se voit contrainte d'opposer la vérité de sa présence télévisée aux rumeurs dont elle est l'objet. En octobre sur Antenne 2 avec Claude Sérillon, hier soir sur TF1 avec Bruno Mazur. Autant dire que le démenti par la présence affichée ne sert à rien, qu'il ne permet pas en tout cas de tordre le cou d'un coup au canard. La dernière fois, Isabelle Adjani dénonçait la radio qui avait osé donner comme une information la fausse nouvelle de son hospitalisation. Hier soir, elle devait compléter et démontrer par l'image rayonnante de sa beauté qu'elle était bien vivante et non pas morte, comme une rumeur montée du sud voulait le donner à penser. Mais ça ne sert à rien. Il restera toujours des téléspectateurs d'Antenne 2 qui n'auront pas hier soir regardé TF1, qui ne lisent pas les journaux ce matin, qui n'écoutent pas Europe 1. Assez de hableurs, assez de crétins pour se faire les propagateurs du TOG, du bidon, du mensonge.
Vous noterez que le débat sur les fake news n'est donc pas nouveau. Voilà, on se quitte avec Françoise Hardy et son titre VIP. Mes acolytes sont toujours Guillaume Maury, Julien Pichenet et Guillaume Vasseau à la réalisation. La suite de notre visite privée de l'année 1986 dans le 4e épisode dont Delattre raconte une année.
Retrouvez On Delattre raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.